Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne.
J'ai commencé tout seul, j'ai commencé à coder Autopano, cette version qui fait le panorama automatiquement.
Seul chez toi ?
Seul chez moi.
Combien de temps ?
Ah, ça a pris quasiment un an.
Et tu disais quoi ? Tu disais, parce que quand même, je vais repositionner, mais vendre du logiciel en ligne en 2004,
ah oui.
Je veux dire...
J'étais un peu... En fait, j'ai eu la chance d'être assez naïf.
Ouais.
Parce que si tu sais tout le parcours qu'il faut que tu fasses après, que tu anticipes, et ben moi j'aime bien les approches, je me lance et au fur et à mesure que les problèmes arrivent...
YOLO,
c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai fait. Donc ma femme travaillait, donc c'est elle grosso modo qui s'occupait du foyer, et un petit appart. La bonne idée que j'ai eue à l'époque, j'ai dit non, mais si tu te lances ceci, enfin, c'est un marathon, c'est très long. Il va te falloir quelqu'un avec qui tu vas pouvoir compter qui ne te ressemble pas. Qui va permettre de... Et donc, j'ai convaincu un ancien d'Infogramme, qui lui était aux États-Unis. Quand Infogramme allait bien, il revenait et a été obligé en 15 jours de plier, parce qu'il n'avait pas la carte verte, de plier bagages à l'entrée en France. Du coup, il s'est retrouvé disponible. J'ai dit, écoute, viens voir. J'ai fait cette démo, un autopanneau en ligne qui faisait déjà le job, mais sans interface, etc. Et on va faire une boîte autour de ça. Et je l'ai convaincu. Lui, moi, je suis assez visionnaire au niveau. Lui, il est très terre à terre. Et cette combinaison, c'est Lionel Lessius que je cite.
Okay. Alors,
salut Lionel. Et on a fondé la boîte comme ça. Voilà.
D'accord. Donc, vous l'avez fondé à deux.
L'ai fondé et je l'ai revendu un tiers 30% des parts pour qu'il me rejoigne. Voilà.
Ok, donc tous les deux en
2004-2005.
Ouais, en fait, faut juste voir hein, que tu me vois un peu bouche bée là-dessus, ouais. Mais c'est que dans ces moments-là, en 2005, je pense que on est dans des endroits, moi qui étais assez geek, peut-être qu'en 2003-2004, j'ai sorti deux fois par an ma carte bleue pour acheter des trucs en ligne, et je faisais partie des rares qui le faisaient, quoi. J'exagère à peine, hein. Peut-être que c'était 2001, mais en vrai, j'achetais.
Mais t'as tout à fait raison.
Les logiciels, souvent, je les piratais parce que en l'occurrence, tu disais, je peux l'avoir gratuit. Et puis c'était par moment plus simple ou pas. Enfin, si tu connaissais un peu les trucs de téléchargement, c'était pas si compliqué. Il fallait avoir, du coup, il fallait être une ref mondiale. C'est ça le truc. C'est que.
Tout de suite.
Tu pouvais pas avoir un marché français parce que c'était pas assez. Donc, il fallait quand même être assez deep, ouais.
Anecdote que je me rappelle maintenant. Comment on vend un logiciel sur Internet en 2005?
Il y a pas de Stripe, il y a pas
y a
de.
Que dalle.
De rien.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai codé moi-même le site de vente en PHP à l'époque, PHP 1 ou 2, en intégrant le.
Il y avait PayPal quand même, mais.
Il y avait PayPal. On l'a jamais mis en route vu les taux qu'il prenait.
Ouais.
Et on avait intégré le système de CB d'une banque à l'époque. Donc une seule banque, une seule CB, pas Mastercard, machin, un truc.
Ouais.
Et on a tout codé à la main, le site de vente à la main. Aujourd'hui, il y a Shopify, tu vois.
Ouais.
Alors on est. Là-bas, t'es obligé de faire Shopify avant de pouvoir vendre, quoi.
Ouais, c'était violent. Tu devais vraiment tout faire, quoi.
Ouais, tu faisais tout.
Et ça valait combien ?
99 euros.
Tu le vendais one shot. Et tu faisais des mises à jour ?
Licence perpétuelle. Et grosso modo, tous les 3 ans, on faisait une mise à jour. C'était un tiers du prix. Donc les gens, si vous voulez passer de la 1 à la 2, les mises à jour mineures étaient gratuites, les mises à jour majeures payantes. Et tout le monde remettait au pot parce qu'ils adoraient, quoi.
Ouais, les pros, ceux qui utilisaient en tout cas. Aujourd'hui, tu aurais fait un modèle SaaS probablement à 8 euros par mois. Ou
exactement, oui. Là, c'est notre façon de penser.
Ouais. Ce sont les nouveaux modèles, mais c'est aussi facilité par justement ces solutions de paiement. Qu'on peut faire. Je comprends bien. Et donc, le succès, la première vente d'Autopano, tu t'en souviens ?
Décembre 2006, quelque chose comme ça.
Ah, donc, tu as bossé 2 ans presque.
C'est ça.
Ton premier produit.
Ouais.
Et la deuxième, juin 2007.
Non. C'était... en fait, il y avait un client qui nous a étonné. Non, mais j'ai essayé tous les projets, tous les trucs. Je m'en fous, c'est une bêta. Je veux payer tout de suite. Et il a payé tout de suite, genre à moi ou à tout le monde, juste pour avoir, parce qu'il était super content du résultat qu'on sortait par rapport à ça. Non, c'était un Américain.
Ok.
C'était un Américain. Bon. Ouais. Et ensuite, ça a commencé, je pense, en février 2007. Et on a commencé à en vendre. Une, deux licences jour, trois licences jour. Et ça a commencé comme ceci, quoi.
Okay.
Et ensuite, la boîte, ça a été très facile à gérer. On regardait combien de licences on vendait par mois. Est-ce que ça rentrait un salaire en plus? On embauchait une personne en plus pour faire. Voilà.
Ça faisait que croître.
Et ça faisait que croître.
Parce que c'est là, ça peut être un peu le stress qu'on a justement. Quand tu, autant quand tu fais du, donc ce qu'on appelle les logiciels en SaaS, toi, tu n'étais pas en SaaS, donc software as a service. Le modèle SaaS, c'est celui que je viens de décrire, c'est-à-dire que tu t'abonnes. Là, toi, tu étais un logiciel en...
licence perpétuelle.
Licence perpétuelle.
À l'époque,
Ce qui se faisait. Microsoft était vendu comme ça.
Microsoft, dans le domaine de la photo, c'était Photoshop. Hein,
ouais. Qui avait acheté Photoshop, boum.
Ça coûtait 2000 pour 2 ans, grosso modo.
2000 francs, non
c'est pas c'est... Est-ce qu'on était
euros,
encore en
2000 euros, ça me semblerait cher quand même, non
bah, la suite complète, elle était à 4000 euros. Hein. C'était quelque chose de fou. Hein. Alors comme maintenant, elle est à 65...
Par mois, ouais.
Par mois, quoi.
Ouais, ouais, ça fonctionne. Hein, ça coûte bien 2000 balles.
Tous les... Ouais, c'est vraiment... C'est cette heure de grandeur, quoi. Et voilà, Autopano a fonctionné.
Non, mais parce que donc, ce que j'allais dire, c'est que le stress dans un modèle comme ça, c'est qu'à un moment, bon bah... T'as topé tout ton marché, j'exagère un peu, mais et tu sais combien t'en as vendu au total ?
Autour de 100 000.
Ouais, donc c'était vraiment la question que je me pose, c'est que tu vois, 100 000 personnes dans le monde...
ont utilisé Autopano.
Ouais, ont acheté, hein, parce que moi je l'ai pas utilisé, je l'ai pas
alors,
acheté.
Alors, utilisation, on avait aussi des métriques, parce que quand on lance le logiciel, on vérifiait les mises à jour, okay. S'il y avait une mise à jour, et du coup, le nombre de lancements du logiciel, on pouvait l'avoir du côté serveur que de vérification mise à jour. Et c'était l'ordre de 3-4 000 personnes par jour qui l'ouvraient, quoi. Donc un taux d'usage qui est énorme, hein, qui est vraiment...
Et alors, c'était beaucoup de photographes pro, j'imagine, ou pas? Non, pas que.
En fait, il y a eu des clients. Moi, j'avais pensé, c'est comme moi, je vais dans la montagne, je vais faire un photo panoramique, le marché est tout petit. Et en fait, ça va beaucoup, beaucoup plus large. Et il y a des clients, la NASA, par exemple, qui utilisaient ceci. J'ai entendu parler de MI6, qui utilisait ceci du mauvais côté des frontières pour pouvoir capturer des lieux pour les déplacements des VIP, etc. J'ai eu des archis, En fait, partout. Les usages de la grande photo, quand on n'a pas un boîtier moyen format qui fait 500 mégapixels, quand il faut de la grosse résolution, c'est large. En France, les centrales nucléaires, les fameuses tours d'aération, sont photographiées en gigapixels tous les ans pour vérifier s'il n'y a pas des cracks dans le béton. Parce qu'un crack dans le béton à 100 mètres de haut, imagine, t'as un petit truc d'un kilo qui tombe pendant que toi, t'es en dessous, t'es mort, quoi. Qui te le prend sur la gueule. Donc, ils sont obligés de faire de la maintenance. Mais ils peuvent pas envoyer quelqu'un en haut. Alors peut-être ils pourraient faire des inspections drone aujourd'hui, mais là ils shootaient avec un espèce de gros appareil photo avec un 1000 mm derrière pour avoir au niveau du millimètre
Et donc
des
ils,
trous.
Ils utilisaient Autopano.
Et ils utilisaient Autopano pour faire ceci, quoi.
Ouais, j'imagine aussi ces photos majestueuses de la Lune là, tu sais, qui sont prises.
Par exemple,
ça doit être assemblé, j'imagine.
C'est très très probable. Ouais. On a fait à une époque. On a fait le projet qui s'appelait Paris 26 gigapixels.
Ah, je me souviens, oui.
Ouais, celui-là qui était énorme, c'était un énorme projet avec un ami photographe qui s'appelle Arnaud Frisch et Martin Loyer. Et on est allé à Tours Saint-Sulpice, à Paris, et on a mis un robot de prise de vue ici. On a pris 2500 photos au-dessus de Paris, on voyait la tour Eiffel, etc. Et on pouvait zoomer. Et ben, le jour où ça a été lancé, j'ai fait un tweet, je crois que c'était le mercredi à 15h, le jeudi, tu avais 2 tweets par seconde dans le monde qui citaient la photo.
Incroyable.
On avait, et là je dois remercier quelqu'un, c'était Xavier Nils, qui nous avait mis à disposition les CDN qui testaient à l'époque du groupe Le Monde pour pouvoir encaisser la charge sur ce site web. On a été à 11 millions de visiteurs uniques en une semaine.